France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, il existait quelque part dans la mer, pas la peine de chercher où. Une société humaine qui paraissait être fortement en avance sur son temps. Une société riche, plutôt fière d'elle-même et arrogante, très civilisée et arrogante pour cela. Les arts et les techniques y étaient extraordinairement développés, plus qu'ailleurs, dans la robotisation, dans les virtuosités lumineuses de l'architecture, dans la beauté des tissus, du sport, des jeux, la danse, la poésie qui était là-bas belle à bouleverser les auditeurs. Dans le bonheur des fêtes qui demandent un vrai savoir-faire.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
C'était un peuple de marins. Le dieu qu'ils célébraient le plus était Poséidon, le dieu de la mer, qui leur avait transmis l'art de naviguer. Ces gens savaient traverser en toute sécurité les mers les plus hostiles, les plus démontées. Ils avaient su construire des bateaux incroyables, qui étaient des prouesses de technique, d'intelligence artificielle. Leurs bateaux, hyper rapides, n'avaient pas besoin de gouvernail. Ils étaient dirigés directement par la pensée. Les habitants de ce pays étaient beaux, malins, experts. Les dieux les fréquentaient volontiers. Une espèce de Californie à l'antique, avec sa high-tech, ses stars et son art de vivre. Ce pays était une île, loin de tout, où vivait un peuple qui semblait heureux, les Phéaciens. C'était le pays de la belle Nausicaa, de son père, le roi Alkinoos, et de sa mère, la reine toute-puissante, maternelle et protectrice, Arete. Le pays du grand poète et chanteur, Démodocos, et de quelques jeunes bellâtres, insolents, pas tous, comme le sont les seigneurs de la Silicon Valley. Cette île va être décisive pour Ulysse, car les Phéaciens vont le ramener chez lui, à Ithaque. Ils vont armer un bateau pour lui, qui fera le trajet en une nuit. Mais avant, il faudra qu'il se fasse reconnaître, accepter, qu'il obtienne un passage jusque chez lui, et qu'il raconte toutes ses aventures depuis son départ de Troie, sa traversée de mondes ahurissants et incroyables. Les Phéaciens sont la transition entre cet univers fabuleux, univers de légende, et le monde réel, Ithaque, le monde bien concret qu'Ulysse veut rejoindre. C'est pour cela que les Phéaciens ressemblent beaucoup à notre monde, notre, je veux dire le monde de la réalité et du présent, tout en étant aussi très différents. C'est la dernière étape du retour. Ulysse, sans du tout le vouloir, est arrivé là, après une longue traversée depuis l'extrême ouest, depuis l'île de la déesse, Calypso, où il avait été retenu pendant 7 ans. Il arrive nu, épuisé, après 17 jours de navigation, sans dormir, sur un radeau de sa fabrication, et après une affreuse tempête que son persécuteur habituel, le dieu de la mer, Poséidon, avait méchamment déchaîné contre lui. Ce dieu voulait le faire souffrir le plus possible et retarder le retour d'Ulysse dans sa patrie. Mais, heureusement, une déesse est sortie des eaux, la resplendissante Leucothée, la déesse blanche. Elle a vu Ulysse en détresse et l'a sauvé. Elle lui a prêté un voile magique, un voile dont il s'est couvert la poitrine. Et abandonnant son radeau, il a pu nager jusqu'à la côte, en souffrant, en luttant contre les vagues qui le rejetaient sur les roches, contre le ressac, jusqu'à ce qu'il trouve un lieu apaisé, une plage. Il a pris pied, a rendu son voile protecteur à la déesse et s'est écroulé, défait, épuisé. Par chance, il a trouvé un abri miraculeux, un arbre double, à la fois olivier cultivé et olivier sauvage, si bien greffé que ses branches entremêlées protégeaient Ulysse contre les attaques des bêtes et des intempéries. Dans ce petit paradis végétal bien clos, il a pu s'endormir sans crainte. Ulysse n'a aucune idée du lieu où il est arrivé. Il sait seulement qu'il est vivant, dépossédé de tout, rongé par le sel de la mer, défiguré, affreux. Il sait que Posidon le poursuit toujours de sa colère infernale. Mais il sait surtout qu'il a survécu à sa haine, à la violence des vagues, à la fatigue. Nu, moche, sans ressources, il est l'exact contraire de ce que prétendent être les habitants de cette île, beau, élégant, raffiné. Ça ne va pas être simple. Autant Ulysse avait été accueilli immédiatement, à bras ouverts, c'est le cas de le dire, par une Calypso amoureuse, autant chez les Phéaciens, il devra ruser, être habile. Ça commencera aussi, comme chez Calypso, par une histoire d'amour, ou plutôt par une séduction, entre Ulysse et la belle princesse Nausicaa.
Comment t'appelles-tu ?
Oh, je ne sais plus.
Cherche à te souvenir. Est-ce que tu te rappelles le nom de ta patrie ? Attention, Nausicaa ! Mais peut-être est-ce un dieu ? Ne dit-on pas que les dieux souvent prennent une forme humaine ? J'espère que non. Je voudrais qu'il ne soit qu'un homme.
Mais Ulysse, cette fois, sera un manipulateur. L'amourette lui sera d'abord utile. Passant de l'île de Calypso à celle des Phéaciens, Ulysse passe d'un extrême à l'autre. Il a quitté une île heureuse, où vit en maîtresse absolue, à l'écart de toute société, une seule divinité. Et il arrive dans une société humaine, vive, complexe, bruyante. L'île de Calypso était un paradis, mais un paradis isolé au bout du monde, tenu d'une main ferme par une seule personne, la déesse Calypso. Personne ne venait la voir.
Une île, Ogygie, se trouve au loin dans la mer. Là, la fille d'Atlas, Calypso la rusée, habite, déesse aux belles boucles terrifiantes. Et personne ne se mêle à elle, ni parmi les dieux, ni parmi les hommes mortels.
Calypso n'avait besoin de personne. Elle pouvait prétendre à l'autosuffisance sur son île. Elle qui possédait à elle seule une gamme complète de compétences. Elle s'y connaissait en art, le chant et le tissage, en technique, la plantation d'un jardin extraordinaire, le travail du bois, en science, avec sa connaissance des étoiles. Manquait l'art politique et l'art de la guerre, deux grandes compétences de la déesse Athéna. Mais de cela précisément, elle n'avait pas besoin, dans son paradis loin de tout, sans conflit interne, sans ennemis. Être parfaite tout le temps, dans son petit chez-soi coupé du monde, cela devait être monotone. On comprend que Calypso ait été séduite par un être vraiment imparfait, et d'autant plus touchant, attirant, qu'il était mal en point et à soigner. Tout ce qu'elle n'était pas et ne pourrait jamais être. Elle a été séduite par un mortel arrivé chez elle, amoché, perdu, cabossé, un naufragé, Ulysse. Elle l'a revigoré et aimé pendant 7 années. Elle a même proposé à Ulysse l'immortalité qu'il a refusée. Chez elle, c'était un paradis sans société, dont l'harmonie venait de la puissance d'une personne unique, une déesse, qui concentrait tous les savoirs. Ulysse subissait. Avec l'île des Phéaciens, c'est l'inverse. Ce peuple est une autre forme de paradis. Un paradis social, une société humaine, dynamique, structurée, dotée d'institutions solides. Les arts et les techniques n'y sont pas monopolisés par une seule personne, comme c'était le cas chez Calypso. Ils sont répartis entre des professions spécialisées qui, ensemble, forment un tout harmonieux. Pour y être accepté, Ulysse devra montrer son habileté, ses compétences techniques en sport, en argumentation, en poésie. Il ne suffira pas qu'il arrive naufragé et requérant des soins, comme lorsqu'il débarqua chez Calypso. Il devra séduire, convaincre avec toutes les armes du corps et du langage. Cette société est-elle aussi un paradis, mais un paradis collectif ? Une société qu'Ulysse devra quitter, car il n'est pas fait, pas plus que vous et moi, pas plus que toute personne normale, pour vivre dans un paradis. Non seulement ce paradis, Ulysse le quittera, mais après son départ, il disparaîtra à jamais. L'île sera recouverte par un énorme rocher. On ne la verra plus. Elle n'est plus de ce monde. Sa disparition rappelle celle de l'Atlantide, cette île merveilleuse, dominée elle aussi par Poséidon et engloutie à jamais. Encore une fois, ce n'est pas la peine de la chercher sur une carte.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe.
Pierre Judet de Lacombe évoque la rencontre incroyable entre Ulysse et Nausicaa, la jeune fille qui n'a pas peur.
Ces Phéaciens merveilleux qui vont accueillir un temps Ulysse ont une histoire. C'est un peuple de migrants. Au départ, les Phéaciens n'habitaient pas là, mais une autre terre très loin. Cette terre s'appelait Hyperie, Hypereia, à savoir la terre au-delà, qu'on ne peut évidemment pas du tout situer. Ce pays était ample, joyeux. Il y avait beaucoup de place pour y installer des pistes de danse et donc pour y faire la fête. Mais il avait l'immense désavantage d'être voisin de la terre des Cyclopes, qui étaient des brutes, nettement moins civilisés, moins organisés que les Phéaciens, mais qui étaient très forts, plus forts que les Phéaciens. Les Cyclopes ne les laissaient pas en paix et venaient régulièrement les cogner. Cyclopes et Phéaciens étaient liés familialement. La famille royale des Phéaciens est issue de Poséidon, le dieu de la mer. Et le plus connu des cyclopes, Polyphème, celui qu'Ulysse aura à affronter, est un fils de Poséidon. Et pourtant, il ne pouvait pas y avoir civilisation, mœurs, société plus opposées. Les cyclopes vivent sans loi, sans politique, dans des grottes isolées, avec une agriculture rudimentaire et des troupeaux de moutons. Les Phéaciens sont au contraire hyper organisés autour d'un roi et d'un conseil des anciens, et hyper civilisés. Persécutés par les Cyclopes, les Phéaciens quittent leur terre. Ils prennent la mer et vont fonder une ville nouvelle sur une île éloignée de celle des Cyclopes. Cette île s'appelle Skerry, Skerrie, l'île des Galets. Homer nous dit qu'elle est
loin des hommes mangeurs de farine.
Les Grecs anciens ont essayé de la situer. Souvent, on y a vu Corfou, Corcyre pour les anciens, qui n'est pas très loin d'Ithaque. Mais Homer prend soin de dire qu'il ne faut pas chercher. Cette île est lointaine, c'est tout ce qu'on sait. Arrivés à Skerry, les Phéaciens, conduits par leur roi Nausithoos, fils de Poséidon, son nom veut dire « au bateau rapide », fondent une ville, bien protégée par des remparts. Alors que les Cyclopes pratiquent individuellement la force de manière anarchique, tellement ils sont forts, les Phéaciens se dotent avec leurs bons remparts d'une force collective politique. Cette ville est une vraie cité modèle.
Nausithoos dressa un rempart autour de la ville, construisit des maisons, éleva des temples pour les dieux et partagea la terre à la bourrée.
Toutes les composantes d'une cité grecque du temps d'Homère y sont. Les murs contre les ennemis extérieurs, les habitations des familles, les lieux de la religion publique et la juste répartition des ressources agricoles. Cette répartition juste, bien réglée, est la base de la vie sociale et politique. Elle est la base de l'harmonie de la cité. En Grèce, la loi qui rend possible la vie collective est d'abord pensée comme répartition, comme partage équitable. On est à 1000 lieues de Calypso et de son paradis solitaire et à 1000 lieues du désordre anarchique des Cyclopes. Mais cette cité idéale hors du monde ne va pas durer à cause d'Ulysse. Les Grecs, qui entendaient Homère raconter cette histoire, savaient bien qu'on était en pleine imagination mythique, qu'il ne fallait pas entendre dans tout cela un récit historique. Mais cette histoire sonnait vraie. Dans ce départ des Phéaciens pour une autre terre, à cause des violences qu'ils subissaient, le public d'Homère reconnaissait ce qu'ils étaient pour beaucoup d'entre eux en train de vivre. Les grands départs, les grandes migrations et la fondation sur des côtes lointaines de nouvelles cités. Ces migrations massives étaient dues à des luttes qui déchiraient les cités d'origine. L'historien Thucydide, du 5e siècle avant Jésus-Christ, date ces grands mouvements dans la Méditerranée de la période qui a suivi la guerre de Troie.
Aussi bien, même après la guerre de Troie, la Grèce connaissait-elle encore des migrations et des établissements nouveaux qui l'empêchèrent de se développer dans le calme. Le retour tardif des Grecs, rentrant d'Ilion, produisit en effet bien des bouleversements. Et en général, il y eut dans les cités des luttes intérieures, dont les victimes partaient fonder des villes.
Les Phéaciens, émigrés, vivent désormais en paix. Est-ce que leur société va tenir ?
Suzanne Saïd, helléniste.
Alors les Phéaciens, c'est, comme on a souvent dit, une sorte de zone de transition. C'est-à-dire que vous y retrouvez toute une série de caractéristiques fondamentales d'une société civilisée. Il y a une ville avec des belles rues, avec des maisons. Il y a un magnifique jardin, il y a un palais. Ils pratiquent l'hospitalité.
Une des valeurs essentielles.
Oui, parce que, si vous voulez, c'est la seule protection pour quiconque s'aventure au-delà du cadre géographique de la cité. Et c'est une valeur fondamentale. Les Phéaciens sont des hôtes parfaits.
Nausicaa !
Oh ! Ulysse, pour le moment, n'est pas du tout concerné par ces grandes questions. Quand il se réveille, bien à l'abri de son olivier double, il ne se doute évidemment pas qu'il a mis le pied dans un monde en pleine transformation et qu'il sera l'acteur de cette transformation. Ulysse est réveillé par les cris de jeunes filles qui jouaient à la balle. La balle leur a échappé et elle crie. On ne pouvait pas imaginer plus étonnant. Athéna, évidemment, la protectrice résolue d'Ulysse, a tout combiné. C'est la fameuse rencontre d'Ulysse et de la jeune princesse Nausicaa. Une petite note personnelle avant de la raconter. Il y a très longtemps, j'étais un jeune helléniste et je m'étais mis à l'étude d'Homère. Je rencontre ma vieille tante et je lui dis avec un air de triomphe un peu bête, « Je crois que j'ai enfin compris le passage de l'Odyssée où Ulysse rencontre Nausicaa. » Elle me regarde en silence, puis elle me dit, « Au moins, tu ne fais de mal à personne. Les études littéraires seraient donc inoffensives. Hélas !» L'île des Phéaciens était gouvernée par un roi appelé Alkinoos. l'homme a l'esprit de résistance. Mais on va vite voir que ce n'est pas lui qui avait le pouvoir, mais sa femme arrêtait. Encore un pouvoir féminin sur une île, comme chez Calypso, chez Circé, et peut-être aussi chez Pénélope. Ce roi et son épouse avaient une fille, Nausicaa, qui n'était pas encore mariée, mais qui était en âge de se marier. Athéna prend l'apparence d'une amie de la jeune fille, et avant l'aurore, elle s'introduit dans la chambre de Nausicaa. Elle lui parle en rêve.
Qu'est-ce, Nausicaa, que cette nonchalance ? Tu laisses là, sans aucun soin, ces habits chatoyants quand le mariage est proche, où il faudra porter les plus beaux vêtements et en fournir à ton cortège. C'est ainsi qu'on obtient par le monde ce bon renom, dont le père et la mère souveraine se font joie. Allons donc, dès le point du jour, laver cela. Je t'aiderai dans ce travail, que tu en aies plutôt fini. Car tu n'as pas longtemps à rester jeune fille. Déjà dans le pays, tous les meilleurs te font la cour parmi les Phéaciens qui sont comme toi, de sang noble. Mais va, demande à ton glorieux père, avant le jour, de te donner des mules et un chariot pour emmener les ceintures, les voiles et les étoffes chatoyantes. Même pour toi d'ailleurs, cela vaudra mieux que d'aller à pied, car les lavoirs sont très loin de la ville.
Athéna rappelle la règle à la jeune fille de bonne famille qui doit penser à son mariage. Mais elle va l'emmener loin de la ville, dans un lieu limite, un lieu sauvage. Là, se produira un événement qui échappe à toute règle. Nausicaa, encore sous le coup de son rêve, convainc son père, Alcinoos. Elle ne lui parle pas de ses noces à venir, des vêtements qu'elle devra y porter, mais se dit volontaire pour laver le linge de toute la famille. Alcinoos sourit, lui donne des mules et un chariot. Nausicaa s'en va avec ses servantes. Elle arrive au bord du fleuve où Ulysse avait accosté. Le linge est déchargé, mis dans des lavoirs au bord du fleuve et piétiné allègrement. Puis on l'étend au soleil. Après le travail, vient le repas, puis le jeu. On se dévait, on joue à la balle et on chante.
Quand les servantes et Nausicaa en eurent fini du plaisir de manger, elles prirent une balle et jouèrent, lâchant leur voile. Nausicaa, la belle au bras blanc, commença à chanter pour elle. Pareil, Artémis va par les montagnes, la semeuse de flèches, ou bien sur l'immense Taygète, ou sur l'Érimante, tout au plaisir que lui donnent sangliers et biches rapides. Avec elle, les nymphes, filles de Zeus qui tient l'égide, jouent dans les prairies sauvages. Le cœur de Leto s'illumine de joie. Plus haut que toutes les autres, Artémis tient la tête et le front, facile à reconnaître, même si toutes sont belles. Pareil, Nausicaa, la Vierge insoumise, se distinguait des suivantes.
Homer sourit. Nausicaa est là normalement pour préparer ses noces. Mais à cause de sa beauté, de son allure, elle est comparée à Artémis, la chasseresse, la déesse hyper-vierge qui fuit toute noce. Mais arrivera un mâle, d'apparence bestiale, sauvage, ou plutôt ensauvagé par son séjour en mer, Ulysse. Rien ne se passera comme les bonnes mœurs le feraient prévoir. Normalement, Artémis élimine cruellement les hommes qui la voient nue, comme par exemple le pauvre Actéon, qui l'a surprise et qu'elle a fait dévorer par ses propres chiens. Nausicaa n'agira pas comme ça. Elle souhaitera la bienvenue au pauvre Ulysse.
Qui es-tu ? Comment t'appelles-tu ?
Oh non. Je ne sais plus. Je me souviens de rien.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Gone behind, been wasting most their days in remembrance. relations, consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutations, miscreation, confirmation to the evils of the world. Then spending most of their lives living in a future paradise. Then spending most of their lives living in a future paradise. Been looking in their minds for the day that sorrow's gone from time. Keep telling us
Judée de la Combe évoque la rencontre incroyable entre Ulysse et Nausicaa, la jeune fille qui n'a pas peur.
Les cris des jeunes filles réveillent Ulysse, il est surpris. Il ne sait pas du tout où il est.
Hélas, chez quel mortel suis-je arrivé ? S'agit-il de violents, de sauvages sans justice, ou d'hommes hospitaliers dont l'esprit craint les dieux ?
C'est la question qu'il se pose chaque fois qu'il arrive dans un nouveau pays. Mais là, ce qu'il a entendu, ce sont des voix de filles. Sont-elles des déesses, des nymphes ? Il n'en sait strictement rien. Ce qu'il veut, c'est rencontrer quelqu'un qui a une voix humaine, qui soit de son monde et qui l'aide. Il décide d'aller voir par lui-même. Il commence par se cacher le sexe avec un feuillage. Cherchant l'humanité, il s'avance et devient en fait semblable à un fauve terrible, en mal de dévoration.
Comme le lion des montagnes, assuré de sa force, qui marche dans la pluie, dans le vent, ses yeux flamboient. Il fond sur les moutons ou sur les vaches, il poursuit les biches sauvages, incité par son ventre à tâter les troupeaux, et même jusqu'aux fermes closes. Ainsi, Ulysse allait aborder, quoique nu, les jeunes filles aux beaux cheveux. Le besoin l'y forçait.
Ulysse est terrifiant. Défiguré par la saumure. Toutes les filles s'enfuient, sauf Nausicaa qui reste immobile. Ulysse se demande ce qu'il doit faire. L'urgence est d'être intelligent. Ça, il sait le faire, c'est sa spécialité. Il se refuse à se jeter à ses genoux, comme font normalement les gens qui supplient. Ce serait brutal. Il choisit de rester à distance et de prononcer, lui qui a un air de brute, des mots doux comme le miel. C'est ce qui devrait rapporter le plus. Ulysse pense d'abord toujours au profit. Il n'a qu'un but, trouver de l'aide pour reprendre des forces et trouver un moyen de quitter ce pays au plus vite. Mais d'abord, il faut séduire, ne pas faire peur. Il faut être habile et doux. Ulysse commence par dire à Nausicaa qu'il ne sait pas si elle est humaine ou divine, tellement elle fait penser à Artémis. Puis il dit que l'homme qu'il épousera sera le plus heureux des hommes. On pourrait croire qu'il a deviné que Nausicaa était venue là pour préparer son mariage. Puis il affirme qu'en tout cas, il n'a jamais rien vu d'aussi beau, sauf le palmier qui a poussé à Délos. C'est au pied de ce palmier magnifique que, selon la légende, seraient nés Artémis et Apollon. Occasion pour Ulysse de dire qu'il n'était pas n'importe qui, puisque toute une troupe de guerriers l'avait suivi jusque-là.
Non, jamais je n'ai vu de mortel, homme ou femme, à toi pareil. Et devant toi, je me sens plein de révérence. Je n'ai rien vu de tel qu'à Délos, autrefois, près de l'autel d'Apollon, le tronc droit d'un jeune palmier. Car je fus là aussi, tout un peuple m'accompagnait sur cette route où je devais trouver tant de soucis. Comme alors, devant lui, je demeurai longtemps dans la stupeur, car jamais rien de tel n'était monté de terre. De même, femme, je t'admire avec stupeur. Je crains infiniment de toucher tes genoux.
Puis Ulysse lui demande d'avoir pitié de lui donner un bout de tissu pour qu'il se couvre, et il lui souhaite un bon mari.
Et les dieux puissent-ils t'accorder ce que tu désires, un mari et une maison, sans oublier la concorde précieuse. Il n'est rien de meilleur au monde qu'un homme et une femme, dans l'accord de leurs pensées, tenant une maison, pour le malheur des ennemis et la joie des amis, mais d'abord pour leur propre joie.
Anne Merquet, philosophe.
C'est une scène magnifique, Ulysse surgissant des buissons, nu, après avoir fait naufrage. Il y a une subversion par Homère du rapport entre les hommes et les femmes, puisqu'en fait, Ulysse vient de quitter Calypso 20 jours avant, qu'il avait vêtu. En fait, les femmes, leur travail classique dans la Grèce, c'est le travail de la laine et c'est de faire les vêtements. Donc en fait, les femmes vêtent les hommes, elles les revêtent de leurs vêtements, ce sont aussi elles qui lavent le linge. Donc elles ont une sorte d'accès à la nudité des corps masculins par ce biais-là. Et Ulysse avait été vêtu par Calypso avec des vêtements qui l'ont entravé quand il a chaviré.
Et donc là, laver. C'est Ulysse à il la fois blessé, Ulysse plein de désir, plein de vie.
Et en fait, plein de retenue. D'accord. C'est-à-dire, il est comparé à un lion qui a le ventre vide et qui s'avance vers des biches prêts à les dévorer. Et il y a une subversion du modèle. Et ce qui est vraiment très amusant, c'est que c'est quand même assez rare d'avoir une scène où c'est un homme nu devant des femmes.
Alors qu'il est indécent, qu'il a l'air d'une bête sauvage, Ulysse fait à Nausicaa un cours sur les bienfaits du mariage, en faisant comme s'il savait ce qu'est le désir le plus profond de la jeune fille. Il montre par là que son apparence, qui est effrayante, ne compte pas. Il s'agit d'abord de faire un joli discours. Nausicaa est séduite. Elle ne s'effraie pas. Elle rassure ses amis en leur disant qu'il n'y a rien à craindre. Cet homme n'est certainement pas une brute, vu la manière dont il lui a parlé. C'est un misérable. Il faut l'aider. Et elle ajoute quelque chose qui nous fait mieux comprendre ce qu'est son monde, l'île des Phéaciens. « Cette île, croit-elle, est bénie des dieux. Il n'y a pas de danger, personne ne peut y débarquer et nuire à la société des Phéaciens, car les dieux la protègent. »
Suivante demeurée, où vous fait fuir la vue d'un homme ? Dois-je penser qu'en lui, vous avez vu un ennemi ? Il n'y a pas, il n'y aura jamais au monde un homme qui aborde à ce pays des Phéaciens pour y porter la ruine, car ils sont trop chers aux dieux. Nous vivons à l'écart au sein de la mer démontée, au bout du monde, et sans fréquenter d'autres hommes. Mais celui-ci n'est qu'un naufragé malheureux. Il nous faut l'accueillir, car les mendiants, les étrangers, viennent de Zeus, et le moindre don leur fait joie.
Les Phéaciens se croient protégés des dieux. Un peu plus tard, on apprendra qu'ils ont une chose en commun avec les cyclopes, ces brutes qui autrefois les persécutaient régulièrement. Les dieux aiment venir chez eux, les fréquenter, passer du temps avec eux, alors que ce n'est définitivement plus le cas ailleurs, où hommes et dieux sont nettement séparés. Ça devient passionnant. On apprend que pour Homère, il y avait deux formes de société humaine, pas comme la nôtre, des sociétés plus anciennes, où les dieux pouvaient encore être reçus en amis. D'un côté, Il y avait une société primitive, brutale, anarchique, sans loi, celle des cyclopes. Et d'un autre côté, une société contraire, hyper policée, férue de technique et bien gouvernée, celle des Phéaciens, de Nausicaa. Deux images contraires de sociétés anciennes, dépassées, puisque plus jamais les dieux ne viennent fréquenter les sociétés normales, actuelles. Ulysse apportera du malheur à l'une et à l'autre, en aveuglant le cyclope, et contrairement à ce qu'affirme Nausicaa, en apportant la ruine au pays des Phéaciens, qui, à cause de l'accueil que lui ont donné les Phéaciens, disparaîtra à jamais. Mais on n'en est pas encore là. Nausicaa demande à ses servantes de donner des vêtements à Ulysse. Ulysse se met à l'écart, il plonge dans le fleuve, se lave, pas tout seul. La déesse Athéna, qu'il aime tant, descend sur terre pour l'améliorer et le rendre plus que présentable. Un traitement cosmétique total est requis, tant Ulysse est devenu affreux. Athéna change Ulysse de fond en comble. On est en plein artifice, en pleine fabrication artisanale. Pallas Athéna lui donne un corps brillant, comme on fait du plaqué or avec un bijou en argent.
Alors Pallas, fille de Zeus, le fit paraître plus grand, plus vigoureux, déroulant sur sa nuque une toison bouclée comme la fleur de la jacinthe. Comme quand un bon ouvrier, instruit par Héphaïstos et Pallas Athéna, en toute espèce d'art, revêt d'or un objet d'argent et fait de gracieux ouvrages. Ainsi, de grâce, elle vêtit sa tête et ses épaules.
Nausicaa est sidérée. Un tel homme, s'il n'est pas un dieu lui-même, ne peut être qu'un envoyé des dieux. Elle aimerait tant l'épouser, dit-elle, mais cela n'arrivera pas. Ulysse est là pour passer son chemin et pouvoir rentrer chez lui. Ulysse a donc changé de corps pour un temps. Quel est le vrai Ulysse? Est-ce qu'il y en a un? Pas sûr. Son corps dépend des circonstances et donc des dieux. Nausicaa et Ulysse se mettent d'accord. Elle le conduira jusqu'à la ville où il pourra demander au roi Alcinoos de l'aide pour son retour. Mais elle n'entrera pas en ville avec lui. Cela ferait jaser. Les Phéaciens se diraient qu'elle a trouvé un homme à épouser, et en plus un étranger, alors que tant de Phéaciens sont candidats pour l'épouser. Ce ne serait pas correct. Elle demande à Ulysse de se cacher dans un bois, d'attendre un peu, et de rentrer seul dans la cité. Il trouvera facilement le chemin du palais royal et pourra aller jusqu'à ses parents. Le roi Alcinoos et la reine Arete. Lui sera assis le dos au feu et sera en train de boire du bon vin, comme font les dieux. Elle sera assise, appuyée à un pilier. Elle tiendra une quenouille et sera en train de filer. C'est elle, la fileuse, qui fera le destin d'Ulysse. Ils avancent. Ulysse, beau, élégant, marche derrière le chariot des filles. La ville apparaît, elle est magnifique, bien protégée par un mur, construite sur une presqu'île, comme tant de villes fondées par les Grecs en Asie mineure, avec deux ports, des ateliers de construction navale, des entrepôts, une grande place bien pavée et somptueux, le temple du dieu Poséidon, le grand protecteur des Phéaciens. Pour le moment, Ulysse n'y entre pas. Il attend dans un bois. La déesse Athéna vient le chercher sous la forme d'une jeune fille. Elle rend Ulysse invisible en l'entourant d'une brume opaque. Guidé par la jeune fille, Ulysse avance et va d'émerveillement en émerveillement. Quand il voit cette ville maritime industrieuse, bien protégée par ses murs, avec de grandes et belles places, quand ils arrivent devant le palais du roi, la jeune fille, ou plutôt Athéna, donne à Ulysse un étrange conseil. S'il veut de l'aide, s'il veut qu'on le conduise chez lui, il doit s'adresser directement, non au roi Alcinoos, comme ce serait normal, mais à sa femme, Arete, dont le nom veut dire « celle qu'on supplie ». Cette femme, l'épouse d'Alcinoos, est selon Athéna la plus vénérée des femmes.
Alcinoos en fit son épouse, et il la vénéra comme aucune autre n'est vénérée sur la terre, parmi les femmes d'aujourd'hui qui tiennent maison sous l'autorité des hommes.
Jusque-là, rien de bien extraordinaire. L'épouse est vénérée, mais le maître, à la maison, est toujours le mari, Alcinoos. Mais Athéna continue. Arete, la reine, est dotée, selon elle, d'un pouvoir politique énorme. En fait, C'est elle qui décide dans la cité. Elle est adulée par la foule, car elle sait régler les conflits en prenant les décisions qu'elle veut, comme elle veut. Elle tient l'autorité d'elle-même, de son esprit, de son efficacité, et juge selon ses sentiments. C'est elle qu'il faut convaincre. Un pouvoir féminin règne sur la ville.
Le peuple qui la contemple comme une déesse l'ovationne lorsqu'elle marche dans la ville, car son esprit ne manque pas de noblesse. Pour ceux dont elle pense du bien, même des hommes, elle défait les querelles. Si elle a dans son cœur des pensées amies pour toi, il y a espoir que tu vois tes proches et que tu arrives à ta maison bien construite et à la terre de ta patrie. Cela dit, Athéna aux yeux de lumière s'en alla.
Ce sont les mots que l'on dit d'habitude pour parler d'un bon roi, à savoir d'un roi qui est honoré quand il marche dans la ville parce qu'il sait arrêter les conflits qui déchirent sa cité. Mais un roi doit normalement le faire en s'appuyant sur des lois transmises par les dieux, sur des traditions bien réglées. Arrêtait ? Non. Elle s'appuie seulement sur son sentiment et son bon sens. Ulysse devra lui plaire.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de la Combe.
When your love is low, it's me and I'm fading, and back on a waterfall. Holding you, holding me, guessing forever we'll fall together. Holding you, holding me, guessing you're all that tasted. When it gets hard, breezes heading slowly, and I get up. Holding you, holding me, guessing forever we'll fall together. Holding you, holding me, guessing you're all that tasted. Just a little more, just a little more, just a little more to call me. Give me just a little more, just a little more, just a little more to call me. Your love is slow, it's me and I'm fading. In waterfall, when it's raining, holding you, holding me, guessing forever we'll fall together. Holding you, holding me, guessing forever we'll fall together. Holding you, holding me, guessing forever we'll fall together. Holding you, holding me, kissing, you're all that tasted, you're all that tasted.
Pierre Judet de la Combe raconte la générosité des Phéaciens qui accueillent un étranger inconnu.
Ulysse s'approche du palais. Il se tient à l'entrée de la grande salle. Il a devant lui un spectacle inouï.
Son cœur était pris de mille élans quand il se tenait debout, avant de franchir le seuil de bronze.
Ce qu'il voit est stupéfiant. La grande salle du palais est une immense imitation du monde. Ces décors rassemblent les éléments contraires de la nature en un même lieu. Ils reproduisent la nuit et le jour, le sombre et l'obscur. Des chiens mécaniques sont à l'entrée et la garde. Des jeunes garçons en métal portent des torches tandis que des femmes vivantes travaillent à fabriquer des merveilles tissées. Le dieu artisan Héphaïstos est venu en personne participer à la construction de cette merveille. Lui qui travaille d'abord pour les dieux de l'Olympe.
Une lumière, pareille à celle du soleil et de la lune, emplissait la maison au toit élevé d'Alkinoos, grand dans son cœur. Car des parois de bronze étaient dressées là et là, jusqu'au fond depuis le seuil, et autour une corniche d'azur sombre. Des portes d'or fermaient à l'intérieur la maison compacte. D'argent, des piliers se dressaient sur le seuil de bronze. D'argent, le linteau au-dessus, d'or, la poignée. D'or de chaque côté et d'argent, il y avait des chiens qu'Héphaïstos avait fabriqués avec sa pensée savante pour garder la maison d'Alkinoos au grand cœur. Ils étaient immortels et sans vieillesse de jour en jour. D'or aussi, des jeunes gens, sur des socles bien construits, se tenaient debout avec dans leurs mains des torches embrasées. Ils brillaient pendant les nuits dans la maison pour les convives. Alkinoos a 50 femmes dans la maison, ses servantes. Les unes broient sur des meules le grain couleur de pomme, les autres tissent des étoffes et tournent les fils des quenouilles, assises, pareilles aux feuilles d'un grand peuplier.
Même chose pour le jardin. Il rassemble la nature entière. Il est florissant, beau, généreux, quelle que soit la saison. Les rythmes du temps ne comptent pas. Les arbres donnent toujours, sans être affectés par le froid et le chaud qui ailleurs tiennent le monde. Tout est présent en même temps, bourgeons et fruits adultes.
Ni l'été ni l'hiver, les fruits ne font défaut. Toute l'année, les arbres donnent et sans relâche. Un doux zéphyr fait bourgeonner les uns, mûrir les autres. La poire vieillit sur la poire, la pomme sur la pomme, la grappe sur la grappe et les figues l'une sur l'autre. Tels sont dans ce palais les dons éblouissants des dieux.
Un monde parfait, grâce à la virtuosité technique de ses artisans, grâce au travail d'un dieu, grâce à la générosité proliférante et toujours égale de la nature. Un monde sans manque. Il y aura toujours de quoi faire la fête, de quoi boire et manger en abondance dans un décor somptueux, de quoi se vêtir avec la plus grande élégance. On comprend que les dieux aiment fréquenter ce pays où la prospérité ne cesse de se renouveler. Ils peuvent s'y réjouir avec les humains. L'île des Phéaciens, et surtout ce palais, reproduisent autant que cela est possible pour un lieu humain l'extraordinaire félicité de l'Olympe. Totalement étranger à la vie du reste de l'humanité, à l'histoire mondiale, les Phéaciens n'ont participé à aucune guerre. Ils ne sont pas allés se battre à Troie. Et ils ne sont donc pas endeuillés. Leur fête, contrairement à ce qu'on a vu chez le vieux Nestor et chez Ménélas et Hélène, ne sont pas menacées par l'irruption de la tristesse, du deuil. Apparemment, on ne pleure pas beaucoup chez les Phéaciens. Le bonheur règne, comme si les humains pouvaient atteindre, presque, la béatitude des dieux bienheureux. C'est un monde qui annule le temps. Les arbres n'y connaissent pas les saisons. Il y a toujours l'abondance. La lune et le soleil, sous forme d'objets fabriqués, brillent ensemble. Les bateaux fendent les eaux à très grande vitesse, plus vite même que la pensée. Les Phéaciens peuvent aller partout comme ils le veulent et être immédiatement rentrés chez eux, pas comme ce pauvre Ulysse qui mettra 10 ans. Mais c'est le temps qui va rattraper ce monde. L'histoire mondiale, avec ses cruautés, va les provoquer, les impacter fortement avec l'arrivée d'Ulysse. Le grand vainqueur de Troie, devenu un miséreux. Ce monde va s'effondrer. Il ne survivra pas au passage d'Ulysse. Ulysse entre dans la grande salle, où en plein repas siègent de nombreux convives. Il s'approche du roi et de la reine. Il est invisible, toujours couvert d'une brume opaque. Ulysse s'incline, serre dans ses mains les genoux de la reine arrêtée. Et immédiatement, la brume se dissipe. Tout le monde le voit. La surprise est énorme. Ulysse fait sa supplique. Il souhaite le plus de bien possible pour les Phéaciens et demande de l'aide, car il a été trop longtemps retenu loin de sa patrie. Puis, humblement, il va s'asseoir dans la cendre du foyer, en silence. Un des Phéaciens présents demande au roi de réagir, d'accueillir l'étranger, de le restaurer. Un suppliant est toujours un protégé de Zeus, dit-il. Il est sacré, il faut l'honorer. Le roi demande à un de ses fils de laisser sa place à l'inconnu. Un bon repas lui est servi. Puis Alcinoos fait une déclaration solennelle. Il ne sait pas qui est cet homme, qui est peut-être un dieu, puisque les dieux aiment venir dans leur île. Mais en tout cas, il faut l'honorer. Alcinoos annonce qu'une grande fête sera offerte le lendemain en hommage à l'inconnu. Puis il organisera au plus vite le retour demandé par ce nouvel hôte. Les convives se retirent. Ulysse est seul avec le roi et la reine. Arrêté, la reine avait tout de suite remarqué qu'il se passe quelque chose de bizarre. Le bel étranger porte des vêtements qui viennent du linge que leur fille Nausicaa était allée laver. Elle demande une explication et demande à l'homme qui il est, d'où il vient. Ulysse ne répond pas. Il ne donne pas son nom, ce qui est extrêmement impoli. À la question « D'où viens-tu ?», il répond par le récit de son voyage depuis l'île de Calypso, de son arrivée mouvementée sur l'île des Phéaciens. Il dit sa reconnaissance envers Nausicaa qui l'a tant aidé. C'est tout. Il reste silencieux sur son origine. L'identité d'Ulysse restera une énigme. Alcinoos, touché par le récit des malheurs de cet homme, par sa délicatesse quand il parle de sa fille, lui déclare qu'il aimerait qu'il devienne son gendre et vive chez eux. Mais si l'inconnu veut rentrer dans sa patrie, le roi lui promet un embarquement dès le lendemain. Mais Ulysse partira plus tard. Dire aux Phéaciens qui est Ulysse, pourquoi il est là, cela demandera beaucoup de temps. Les errances d'Ulysse sont trop nombreuses, trop longues à raconter pour penser à un départ rapide. Qui est Ulysse? C'est toute une histoire. Ça ne se dit pas en quelques mots. Ulysse a tout perdu. Il a été dépouillé de tout. Il n'a plus la maîtrise de rien. Comme il le dit lui-même, il est entièrement dominé par le besoin. Il n'est plus qu'un ventre affamé qui cherche à survivre, pas plus. Avant de parler, avant de se raconter, il faut qu'il mange et qu'il boive pour oublier ses angoisses. Ulysse est réduit à presque rien. C'est un homme en manque de tout. Son nom, son origine, la noblesse de sa famille, tout cela ne correspond plus à rien. Ulysse n'est plus que malheur, faim, exil. Ce n'est pas tout de suite qu'il aura envie de se nommer. La reine, arrêtée, comprend. Elle demande aux servantes de dresser un lit pour l'étranger qui peut remercier Zeus. Il sait qu'il est sauvé. Il faudra toute une journée de fêtes, de jeux, de repas, de poésie pour qu'Ulysse, l'errant, se sente redevenir quelqu'un, qu'il ait envie de se présenter en public et de raconter sa longue histoire. C'est comme ça qu'il obtiendra son voyage pour Ithaque. La semaine prochaine, nous verrons Ulysse, le naufragé, le démuni, redevenir lui-même. Ce ne sera pas triste.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël Eladad et Laurence Stocker, avec la voix d'Andrea Lechêne. La programmation musicale est de Thierry Dupin. Bonne journée sur France Inter.